Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La Bible se sert d'images tirées de la vie quotidienne afin de faire passer des leçons spirituelles. Dans la courte série que nous continuons aujourd'hui, nous explorons le sens de l'image biblique des vêtements que nous portons.
Je souhaite la bienvenue à notre invité Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Yann, bonjour à tous.
Jusqu'à présent, lors de nos discussions sur l'image biblique des vêtements, nous avons appris les leçons suivantes. Tout d'abord, la Bible compare notre état de pécheur ou nos fautes à des vêtements sales et déchirés. Ensuite, la Bible nous apprend que, puisque nous sommes ainsi vêtus, nous ne pouvons ni entrer dans la présence de l'Éternel, ni espérer être reçus par lui. Toutefois, la Bible parle aussi de nous enlever nos vêtements sales pour nous donner la tenue qui convient, afin de pouvoir paraître devant l'Éternel. Ceci est une image du salut, une image qui montre que Dieu a réglé le problème de nos péchés. Jésus-Christ a pris nos fautes, c'est-à-dire nos vêtements sales, et à la place, il nous a revêtus de sa justice.
Merci Yann pour ce résumé. Aujourd'hui, nous allons considérer d'autres versets trouvés dans la Bible qui apportent un regard différent à notre sujet. Permettez-moi de m'expliquer. Nous avons vu que Dieu, dans sa grâce, enlève nos fautes. Il nous pardonne et nous rend ainsi dignes d'entrer dans sa présence afin de lui parler. Toutefois, certaines personnes peuvent se dire « Puisque Dieu me pardonne, puisqu'il enlève mes fautes, alors je peux continuer à vivre comme j'en ai envie. Si je continue à pécher, ce n'est pas grave. » Alors en guise de réponse, nous allons lire quelques versets nous montrant ce que Dieu attend de celui qui met sa foi en lui et nous découvrirons une autre image sur les vêtements.
Romains chapitre 13, verset 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Éphésiens chapitre 4, les versets 21 à 24. Puisque vous avez compris ce qu'on vous a enseigné, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus-Christ, cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente vos pensées et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Colossiens chapitre 3, les versets 12 à 14. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté et de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence.
Imaginez un jeune qui, pour des raisons tragiques, se trouve sans famille, sans abri, et contraint de vivre dans la rue. Il vit au jour le jour, ne sachant d'où viendra son prochain repas. Il dispose de peu de vêtements et rapidement, ils deviennent tout sales et déchirés. En proie à la faim, sombrant dans le désespoir, il a recours au vol et aux agressions afin de subvenir à ses besoins. Imaginez alors qu'un jour, le président de son pays vienne à sa rencontre et décide de l'adopter. En un seul instant, ce jeune se retrouve alors dans un milieu riche et prospère. Il ne connaît plus la faim, des personnes s'occupent de lui, son armoire est remplie des plus beaux habits. Non seulement ce jeune garçon peut échanger ses vêtements déchirés contre les plus chics des vêtements, mais il doit aussi changer de comportement, de mode de vie, car désormais, il doit se comporter en tant que fils du président et non plus en simple vagabond. Cette illustration nous permet d'expliquer l'image biblique des vêtements apparaissant dans les versets lus par notre lectrice.
Et pouvez-vous vous expliquer davantage ?
Chacun des versets insiste sur le fait que puisque Dieu nous a pardonnés et sauvés, puisqu'il nous a adoptés comme ses enfants, alors nous devons changer de comportement et mener des vies conformes à ce que nous sommes devenus, car dorénavant, nous sommes enfants de l'Éternel. Cette image est assez simple à comprendre. Nous devons nous débarrasser du péché, cesser de commettre des fautes de la même manière qu'à la fin d'une rude journée de labeur dans les champs, nous enlevons nos habits sales pour en mettre des propres. Ainsi, la Bible nous exhorte à nous revêtir de ce qui est juste et bien. À l'exemple de Jésus-Christ, de même qu'avant d'aller à une fête, nous nous revêtons d'habits dignes pour cette occasion.
Vous comparez donc le changement de vêtements à notre comportement et à notre caractère qui doivent être transformés lorsque nous devenons chrétiens. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce que ce changement implique?
Oui. D'abord, le verset lu dans la lettre de Paul à l'église d'Éphèse parle de revêtir le nouvel homme. Paul souligne que cela implique d'abord un changement dans nos pensées. Nos pensées doivent être renouvelées pour, comme le déclare l'apôtre, devenir conformes à la pensée de Dieu.
Mais comment pouvons-nous savoir ce que Dieu pense?
Nous pouvons découvrir ce que Dieu pense en lisant la Bible. La Bible est une collection de livres écrits par des auteurs divers, chacun dans leur propre situation. Toutefois, la Bible affirme que ces auteurs ont écrit sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Ainsi, ces auteurs traduisent la pensée de Dieu, et ce que nous lisons dans la Bible représente les pensées que Dieu a choisi de nous révéler pour notre bien.
Donc, pour penser comme Dieu, il suffit de lire la Bible.
Il faut aussi croire ce que nous lisons. Il faut laisser la Bible façonner notre vision du monde et répondre à nos interrogations sur les mystères de la vie. Il faut aussi laisser la Bible définir ce qui est bien et ce qui est mal. Penser comme Dieu, c'est aussi aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il déteste.
Mais il ne suffit pas de penser ces choses, il faut aussi agir en conséquence, non?
Exact, Yann. Et ce que Paul écrit à l'église de Colosse insiste plutôt sur ce point, car il est question de nous revêtir des qualités qui reflètent la personnalité de Jésus-Christ.
Et quelles sont ces qualités? Pouvez-vous nous les rappeler?
En bref, il s'agit de l'amour. L'amour doit régir toutes nos relations humaines.
Et comment définir l'amour dans ce contexte, quand nous sortons des domaines du sentimental et du sexuel?
C'est vrai. Et dans le même texte, l'apôtre Paul donne une liste d'autres qualités qui nous aident à comprendre ce que l'amour est et comment l'amour doit régir nos relations. Donc, l'amour comprend des qualités comme la bonté, la bienveillance, l'humilité, la douceur et la patience. Une des qualités même de l'amour est de pardonner les fautes des autres au lieu de rechercher la vengeance ou de bouder, de faire la tête. L'amour, c'est aussi manifester de la compassion, de la solidarité, le partage et la générosité. La pratique de la justice et celle de l'intégrité sont également des expressions de l'amour envers son prochain.
Nous comprenons qu'effectivement, exprimer l'amour à l'exemple de Jésus-Christ réunit bien d'autres qualités et nous donne de quoi réfléchir. Que l'Éternel nous aide chaque jour à nous revêtir de son amour, c'est-à-dire à laisser Jésus orienter tous nos gestes et nos actions envers ceux que nous côtoyons. La gloire de Jésus-Christ dans l'Évangile de Jean. Voici le titre de notre série des méditations bibliques. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ce que Jean-Baptiste déclare au sujet de Jésus. Notre invité Jean-Yves est de retour parmi nous pour nous conduire dans nos réflexions. Bonjour Jean-Yves.
Bonjour Yann, bonjour à tous. Commençons d'abord avec la lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. »
La dernière fois, nous avons appris que les sacrifices d'agneaux pratiqués dans l'Ancien Testament sont là pour nous indiquer la route, la voie à suivre. Selon Jean-Yves, Jean-Baptiste a compris cela, et quand il a vu Jésus, il a aussi compris qu'il était celui en qui l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament se réalisait enfin.
Oui, et avant d'aller plus loin, je voudrais citer le prophète Ésaïe et ce qu'il déclare au chapitre 53, versets 5 à 7. Pouvez-vous lire cela, s'il vous plaît, Yann ?
Oui, bien sûr. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été pincé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé, et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir.
Ce texte nous permet d'établir le rapport entre les sacrifices des agneaux pratiqués dans l'Ancien Testament et le rôle du roi sauveur promis par les prophètes. Ésaïe compare ce roi sauveur à un agneau que l'on amène pour être abattu. Et Ésaïe souligne pourquoi le roi sauveur promis se livrera ainsi à la mort sans résister.
Alors, pouvez-vous nous éclairer là-dessus ?
Ésaïe annonce « C'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. » Ainsi, Ésaïe comprit, des siècles avant ces événements, que le roi sauveur promis mourrait de façon violente et que sa mort représenterait un sacrifice pour le péché par excellence. Un sacrifice qui serait vraiment efficace et qui mettrait fin à tous les autres sacrifices. Le roi sauveur, promis par Dieu, réglerait ainsi le problème du péché, car nos fautes nous séparent de Dieu, et sans régler ce problème, nous ne pouvons ni marcher avec lui, ni recevoir sa faveur et ses bénédictions.
Donc Jean-Baptiste, ayant compris le sens de la prophétie d'Ésaïe, à son tour proclame que Jésus est l'agneau de Dieu. Ainsi, il déclare que Jésus est celui en qui les promesses annoncées par les prophètes vont s'accomplir.
C'est exact. Jean-Baptiste est bien versé dans les Écritures. Il connaît les circonstances miraculeuses de la naissance de Jésus et grâce à l'aide du Saint-Esprit, il reçut la révélation que Jésus est bel et bien le roi sauveur attendu depuis si longtemps. Il sait aussi que le salut des hommes viendra de façon étonnante et inattendue, et que le sang sera versé comme lors des sacrifices d'agneaux.
Merci Jean-Yves, nous en parlerons plus la prochaine fois.
Oui, mais en attendant, nous vous encourageons à mettre votre confiance en Jésus-Christ, car lui seul nous purifie devant Dieu et nous permet de nous réconcilier avec lui.
Sur ce, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.